Vous écoutez
RMC.
RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Vous êtes de retour dans les grandes gueules du sport en direct jusqu'à midi. Dedy Charvet, Pascal Duprat, Marc Madiot, Christophe Cessieux ce matin. Et si vous vous réveillez seulement maintenant, vous avez déjà de la chance, mais vous pouvez retrouver le podcast dès maintenant sur l'appli RMC. Dans 30 minutes, on va revenir sur la défaite d'Arthur Fils contre Carlos Alcaraz hier à Monte Carlo. Mais quel combat pour notre Français, une défaite certes frustrante. Mais est-ce que ça laisse plus d'espoir ou de regret? On sera avec Eric Salio en direct de Monte Carlo. Et puis à 11h45, le débat caché. Les GG qui ne savent rien et pourtant elles vont devoir débattre. Mais d'abord, et si c'était la bonne pour le PSG cette année?
RMC.
Les grandes gueules du sport passent la seconde.
Le but est accordé! Et l'arbitre a sifflé la fin du match. Le Paris Saint-Germain a été au rendez-vous de son défi européen pour que dès ce soir, la possibilité de se qualifier par les barrages soit envisageable.
Un bon sentiment de joie, on a bien joué, on a bien gagné, c'était mérité, c'est tout à fait la force de cette équipe, la force de cette groupe.
Allez, c'est parti pour Désiré Doué, les petits pas, Désiré Doué !
Pour moi, les favoris dans le football, ça n'existe pas. Il va falloir qu'on fasse ce qu'il faut et que l'on mérite de gagner sur le terrain.
Et c'est terminé ! C'est terminé ! Avec la victoire du Paris Saint-Germain sur le score de 3-1 dans ce quart de finale, allez, de la Ligue des Champions.
On n'a pas de limite, mais il faut toujours s'améliorer. Comme on dit toujours, il ne faut pas s'arrêter là. On va continuer à travailler.
Et vous l'avez entendu avec Jeannot Rességuier au commentaire, victoire 3-1, l'aller, retour à Birmingham mardi prochain pour le quart de finale retour de Ligue des Champions contre Aston Villa.
J'adore les joueurs qui disent on va continuer à travailler, heureusement.
Mais ça c'est des phrases bateau.
Oui, ah ouais, non mais ça j'adore.
C'est ce qu'on appelle des éléments de langage.
Voilà, exactement. C'est vrai qu'un joueur qui dirait voilà, non, on va arrêter de travailler,
on va arrêter de bosser. Oui,
on a plus besoin là, c'est bon.
Bon, moi je peux jamais travailler, mais bon, je suis un peu concerné.
Un PSG qui a enchanté le parc, mais aussi les consultants un peu partout en Europe. On a vu les unes de la presse un peu partout qui fleurissent au point d'en faire un des favoris logiques de la compétition. Écoutez d'ailleurs à ce sujet Christophe Dugarry cette semaine dans Rotten sans flamme. Ne pas aller au bout, ça serait une déception.
S'ils vont pas au bout, de toute façon, ce sera une énorme déception. Tout le monde y croit. Sincèrement, si les joueurs y croient pas, il suffit de voir les déclarations des uns et des autres, des joueurs, des acteurs, des dirigeants, des supporters comme Jérôme. Donc voilà, tout le monde y croit et c'est à juste titre, c'est justifié.
Voilà, Christophe Dugarry qui met un peu la pression sur le Paris Saint-Germain. Est-ce que le PSG, si le PSG ne gagne pas la Ligue des Champions, ce serait un échec, messieurs? Oui ou non? Christophe Cessieux.
Je suis entièrement sur la ligne dugarrienne.
Donc oui.
Oui.
Marc Madiot.
Non.
Pascal Duprat.
Oui.
Denis Charvet.
Non.
On a un
Arthur Perrault.
On a un
non.
Bah justement, on accueille Arthur Perrault qui est là dans le studio RMC.
Non, parce que là, on interroge les supporters. Oui, donc,
voilà. Salut Arthur. Quel accueil. Salut messieurs.
Bonjour à tous.
Merci de te lever pour nous rejoindre.
Christophe est encore en forme.
Avant ce match retour, on sent en tout cas un PSG qui a gagné en sérénité, Arthur.
Oui, la confiance règne chez les supporters, comme l'a dit Christophe, et aussi dans une partie du staff parisien avec 2 buts d'avance. Luis Enrique apparaît satisfait mercredi soir face aux médias dans la foulée du match. Le coach parisien pense avoir fait le plus dur.
On a contrôlé le match et c'était notre premier objectif pour pouvoir avoir des occasions de marquer. C'est toujours difficile d'attaquer un adversaire qui a un bloc bas, mais je crois que nous avons été constants. Je crois que l'équipe a démontré une fois de plus qu'elle est prête, préparée pour être compétitive contre n'importe quel rival. Nous avons réussi l'objectif que nous attendions et donc maintenant il faut jouer ce second match, mais les choses sont bien engagées.
Avec 29 tirs à 7, Paris n'a pas tremblé, a remporté son 7e match cette saison après avoir concédé le premier but, un record. Malgré tous ces signaux positifs, Vitinha et Nuno Mendes ne veulent pas s'emballer.
Comme j'ai dit, c'est pas fini. La Champions League, c'est terrible, on sait déjà. Donc on va être prêt, alerte, et on va faire un bon match là-bas pour passer. On a senti qu'Aston Villa voudrait prendre cet résultat de 2-1 pour Villa Park. Donc c'était important de marquer encore un but.
On a encore un match pour jouer. Et 2 buts, c'est, je pense que c'est rien. Si on va là-bas, ils marquent en premier. Après, on va avoir des difficultés parce qu'ils sont à la maison. On sait que nos supporters, ils sont toujours là. Ils nous font sentir à la maison.
Paris arrivera plus frais car il a décalé son match du week-end en Ligue 1 alors qu'Aston Villa affrontera Southampton cet après-midi.
Et oui, tout est fait pour que le PSG aille le plus loin possible en Ligue des Champions. Nous, on se projette avec ce PSG qui nous enchante, qui nous emballe. Est-ce que si le PSG ne gagne pas la Ligue des Champions, ce serait un échec ? Pascal, tu as répondu oui.
Oui, j'ai répondu oui, surtout parce que pendant la phase de ligue, donc la première phase, tout le monde, s'interrogeait sur la qualité réelle du Paris Saint-Germain, sur le
aussi,
bien fondé. Ah non, reprends les. Je lui dis attention, méfiez-vous. La vérité de l'automne, c'est pas celle du printemps. Donc j'étais plutôt mesuré parce que je considérais à juste titre que Paris Saint-Germain jouait très bien, mais malheureusement manquait d'efficacité à ce moment-là de la compétition. Et depuis,
c'est pas que l'efficacité, ils étaient pas bons. Mais ils
PSG, non, les matchs n'étaient pas si mauvais que ça.
Non.
Je suis désolé avec toi, Denis. Les matchs n'étaient pas si mauvais que ça. Ou en tout cas, laisse-moi terminer, il y a une chose de certaine, c'est qu'au moins le Paris Saint-Germain, enfin, jouait en équipe. Et ça, c'est quand même une constante depuis le début de la saison.
Donc, c'est pour ça qu'il faut continuer sur ce chemin.
Et tellement ça, ça
pas une
le Paris Saint-Germain
s'il gagne pas.
Non, mais là, encore une fois, les dirigeants, tout le monde, Nasser l'a dit, la Champions League n'était pas un objectif en début de saison, mais
ça a peut-être
à force,
ouais, 850 millions
de voir la maîtrise du Paris Saint-Germain, parce qu'aujourd'hui on peut parler d'une maîtrise, le dernier match en est l'illustration, le match à Liverpool en est une autre, et si vous voulez la maîtrise du Paris Saint-Germain, elle donne l'eau à la bouche.
Mais est-ce que tu as vu Barcelone jouer ?
Ben le Barcelone, il joue en parcourant alternatif. C'est pas toujours aussi constant.
T'oublies beaucoup de choses, Pascal.
Le Paris Saint-Germain.
Non, mais on peut pas.
Laissez-moi terminer. Vous allez prendre la parole. J'ai le privilège de démarrer.
Vas-y, Pascal.
Laissez-moi terminer. Et Christophe va enfoncer le clou derrière moi. Maintenant, je parle de la concurrence. Bien entendu, il y a un match retour contre Aston Villa. Bien entendu, la glorieuse certitude du sport, mais franchement, en demi-finale, si le Paris Saint-Germain rencontre le Real ou Arsenal, c'est encore, très, très jouable. Et tellement ils sont bons, tellement ils maîtrisent, tellement leur entraîneur qui a de l'expérience parce qu'il l'a déjà gagné.
T'as pas compris la question, Pascal.
Je pense que le PSG va aller au bout. Oui, ça sera un échec parce que nous y croyons tous.
Alors toi, tu dis que le PSG va gagner la Ligue des Champions.
Oui,
c'est pas respecter la compétition d'abord. Les clubs qui jouent, Barcelone, Bayern de Munich, Inter Milan.
Il y a un peu l'ambition, un peu de un jour de vous dire, mais on va la gagner cette coupe. Ça fait 20 ans.
L'échec de perdre en finale contre Barcelone, c'est un échec, mais pour moi c'est pas un échec. Je suis désolé. Mais t'as le droit de perdre contre Barcelone en finale.
Comment ça?
Mais arrête, t'as tous les droits. Mais tu perds tous les ans. Arrêtez, soyez un peu ambitieux. On a le droit de perdre.
Louis Enrique a dit que c'est
rouge à 3 ans. Les remontadas vous sont restés dans votre cerveau.
À un moment,
faut être un peu ambitieux. Tu crois pas que le Real commence une compétition en se disant nous on veut la gagner la Ligue des Champions. Nous on va la gagner. Et à Paris, vous avez la plus belle équipe de l'ère QSI. Vous avez une équipe qui emballe tout le monde. Vous avez des jeunes stars qui font ce pâmé d'admiration toute la planète football en Europe. Et là, vous dites, ce serait pas un échec de gagner. Mais à partir de quel moment vous allez vous dire qu'à un moment, il faut vraiment la gagner cette compétition ?
Absolument pas sur le même projet. Tu compares quelque chose qui n'est pas comparable.
Vous en avez eu 5 ans des projets.
C'est bien,
normal, avec l'équipe, avec ce que vous montrez depuis quelques mois, il faut la gagner, c'est tout. Et ce serait un échec de ne pas la gagner.
Très calmement, il y a deux choses que tu as dit et qu'il faut rectifier.
Voilà.
Tu as dit jeune. Cette année, le Paris Saint-Germain est l'équipe la plus jeune de la compétition. 24 ans de moyenne d'âge.
Le Barça, c'est des anciens joueurs, c'est des vieux avec une grosse expérience.
Le Barça...
Le Barça Hansi Flick, ça fait 3 ans qu'il construit cette équipe. L'année dernière, elle était encore en construction. Cette année, elle est une marche au-dessus. Je suis désolé de te le dire. Elle est un cran au-dessus. Ah et bon, c'est pour ça que là, dans ces matchs importants, ça, elle est au-dessus. Donc demain, tu tombes contre le Barça, tu perds. Ce n'est pas un affront.
Non, allez, quand même. Alors, moi, je veux juste.
Et après, j'aimerais bien
que vous manquez d'ambition, c'est terrible.
Ça sera un échec si dans les 2-3 ans, on ne gagne pas la Champions League. Parce que,
vu 10 ans,
vu comment, d'abord, Luis Enrique a annoncé une révolution, il est en train de la gagner. Moi, je ne l'ai pas vu venir. Et le premier, je le critiquais parce qu'effectivement, il faut du temps pour faire fonctionner un collectif avec des jeunes sans expérience.
Ça marche,
mais s'ils perdent en finale, ça ne sera pas un échec, ça sera la construction d'une équipe, la naissance d'une équipe depuis un an.
Après, tu n'es pas sûr d'y retourner tous les ans.
Pourquoi je pense qu'Enrique a un plan sur plusieurs saisons. Mais
c'est ça.
Il a l'équipe la plus jeune de la compétition à ce niveau
de
toutes les équipes encore en course.
Et alors.
Qu'est-ce qui se passe en ce moment au PSG? Il est en train de construire.
T'as pas le droit de gagner. Dans le vélo, ils gagnent pas à 20 ans, les mecs. Ils gagnent pas. Dans le rugby, toutes les stars, ils gagnent pas à 20 ans. Non,
mais
il y a qu'au PSG ou à 20 ans, t'as pas le droit de gagner.
Coupez le micro, s'il vous plaît.
Et donc, non, je.
Tu vas sortir, Christophe.
Je termine. Je pense qu'il y a un projet, un vrai projet, qui s'est inscrit dans le temps. Et pour une fois, au PSG, on s'inscrit dans le temps. On n'est plus dans l'immédiateté avec des Messi, avec des Ibrahimovic et compagnie.
Et alors, Marc.
Et alors,
faut pas saisir la chance quand tu l'as.
Donc l'objectif, c'est d'ici 10 ans de gagner la Ligue des Champions. Alors,
c'est de s'installer durablement au stade des demi-finales. Si pendant
10 ans tu fais les huitièmes, après pendant 10 ans tu fais les quarts, pendant 20 ans tu fais les demi, peut-être dans 50 ans tu joueras une finale et tu la gagneras.
Il rajoute petit fauteuil d'RMC.
Mais oui, mais bien
sûr. Sur le terrain du sport de haut niveau.
Mais ça y est. C'est pas ta Marion Bartoli, s'il te plaît.
Marc.
Dans le dernier carré, durablement, à l'image de la Real de Madrid, à l'image du Barça, à l'image du Bayern, c'est comme ça qu'ils s'inscriront dans le moment de victoire. C'est en travaillant et en emmagasinant de l'expérience avec cette jeune équipe, en la retouchant par petites touches, en lui permettant de se développer et l'expérience venant, ils gagneront.
Mais l'expérience que génère une victoire en Ligue des Champions, t'en fais quoi, Marc?
Mais justement, alors que cette année, ce chemin qui va les amener à la victoire.
Je suis absolument pas d'accord avec toi parce que cette année, si le Paris Saint-Germain ne gagne pas la Ligue des Champions avec la concurrence, parce que qui a dit que Hansi Flick était là depuis 3 ans en train de construire l'équipe au Barça? C'est une erreur. Il est là depuis cette saison seulement, Hansi Flick, l'entraîneur du Barça. Arthur, donc c'est une erreur que de dire que ça fait 3 ans qu'il construit. Ça fait 3 ans qu'il construit. Non. Donc ce que je veux simplement vous dire, c'est qu'aujourd'hui sur le terrain, le Paris Saint-Germain maîtrise son sujet. Et quand on regarde les autres équipes jouer, que ce soit le Bayern, que ce soit l'Inter, que ce soit Arsenal,
c'est faux ce que tu dis. Arsenal,
il ne maîtrise pas. Comme le Paris Saint-Germain.
Il
va pas marquer 2 coups francs directs tous les matchs. Arrête.
Donc,
tout simplement, le Paris Saint-Germain avance. Le Paris Saint-Germain s'améliore de semaine en semaine. Et son équipe, et notamment son milieu de terrain, il est souverain et il a pas beaucoup d'égal en Europe. Donc, c'est l'année du Paris Saint-Germain. Donc, si le Paris Saint-Germain ne venait pas à gagner, les joueurs, l'entraîneur, l'environnement du club, ils ont raison de rester tapis dans l'ombre. Mais nous, en tant que amoureux du football, supporters du football français,
si le PSG ne venait pas
à gagner cette année, je serais déçu. Tant ils sont
nous aussi, on sera déçus.
C'est une déception. Voilà. Là, vous êtes tous d'accord.
Oui, déception.
Mais oui. C'est le mot échec.
Mais on pourra considérer qu'ils ont manqué.
Déception. Oui, échec.
Mais vu l'adversité que tu as, tu ne peux pas parler d'échec si tu perds cette Ligue Champions cette année. C'est pas possible.
Mais franchement, si demain ils jouent par bonheur, la demi-finale, c'est contre le Real. Tu penses que le Paris Saint-Germain va rougir face au Real de Madrid? Tu rigoles ou quoi?
Parle d'Arsenal.
Mais même Arsenal.
Que t'es meilleur qu'Arsenal aujourd'hui.
Même Arsenal, s'il y a une équipe qui est moins expérimentée, Arsenal n'est
pas fort en tout cas, ça c'est sûr.
Pas moins fort que le Paris Saint-Germain.
Est-ce que t'es plus fort? t'es pas plus fort qu'Arsenal.
Le Paris Saint-Germain est plus fort qu'Arsenal.
Mais non, mais arrêtez quand même. Là,
plus fort qu'Arsenal.
Ouais, d'accord.
Si.
Bon, ok. Ben, très
plus
bien,
complet
très
dans
bien.
Toutes ses lignes.
Très bien, très bien.
Si. Tout, mais tout complet
tu
dans
vois pas les matchs, Pascal. Non, mais t'as compris que Marc,
je ne fais que ça, Denis.
Sont prêts à tout pardonner.
Je ne fais que ça, Denis.
Il prépare la défaite. Parce que vous êtes des losers,
non
monsieur.
Non. Pascal, tu sais quoi? Ils sont politiquement corrects. Politiquement corrects. Ce sont des propres. Des propres.
Est-ce que je peux
dire? Voilà. Très propres.
Je pose une question à Pascal. Est-ce que tu penses réellement que on va prendre les deux adversaires d'Arsenal et du PSG, est-ce que tu penses sincèrement qu'Aston Villa est meilleur que le Real Madrid? Non mais dis-moi, par rapport à l'adversité du jour.
Non.
Donc ça veut dire quand même est-ce que Liverpool
par rapport au Real Madrid, d'accord. Liverpool que vous avez sorti
est meilleur que le Real.
Ils sont tu trouves pas qu'ils sont meilleurs que le Real cette saison?
Liverpool est meilleur.
Liverpool ils sont nuls. OK.
Avant le Real, ils sont c'était les meilleurs d'Europe.
Bah oui, enfin, ils terminaient premier la phase de ligue mais ils sont mauvais. Mais regarde un peu les matchs de foot de
Mais je regarde tous les matchs. Bon, comme Pascal.
Quentin est avec nous.
Ils sont pas bons Liverpool, ils ont 15 points d'avance.
Et il va arbitrer ce duel. Quentin, merci d'être avec nous au 32-16 ce matin dans les grandes gueules du sport. Salut Quentin.
Bonjour tout le monde, vous allez bien?
Ça va bien.
Bonjour. Ça va, oui, à part Christophe qui a
passé ses couches.
On précise, supporter du PSG, Quentin.
C'est ça.
Qu'est-ce que tu voulais dire sur ce débat?
Donc, ouais, pour répondre à la question, voilà, moi, je suis un ancien abonné hein, de Auteuil de 2002 à 2010, donc voilà, un supporter depuis des années. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que non, je ne serais pas déçu si on ne gagne pas la Ligue des Champions. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que déjà, on a un nouveau projet. On ne recrute plus voilà. Des stars qui ont tout gagné. On ne recrute plus voilà, des mecs qui n'ont pas la grinta, qui n'ont pas envie, qui ne courent pas. Là, on a des jeunes joueurs qui ont envie de gagner, qui ont envie de progresser. Luis Enrique, c'est sa deuxième année. On est en train de construire quelque chose. Quand on voit Manchester City qui avait recruté des jeunes joueurs qui ont mis, je crois, 5 ans à la gagner, si je dis pas de bêtises, avec Guardiola, eh ben, je trouve qu'on est voilà sur le même projet. Donc, bien sûr, en tant que supporter, on sera un petit peu déçu parce qu'on veut la gagner. Mais par rapport à là, ce qu'ils nous font vivre avec voilà avec ce qui s'est passé contre City, ce qui s'est passé là contre Liverpool, encore une fois, là, on perd 1-0, on se prend un contre Aston Villa, mais on démord pas. On est là, on continue à jouer, on n'a pas peur, on panique pas et on arrive à gagner et mettre le dernier but à la dernière seconde, le 3-1 qui nous fait du bien. Si on passe contre Aston Villa, bah, on ne sait jamais, hein, mais voilà, c'est du football. Mais on va quand même jouer à Arsenal ou le Real. On ne sait jamais avec le Real, mais bon, je pense qu'Arsenal va passer. Arsenal, ça fait longtemps qu'Arteta est là. Moi, je trouve que ça joue très bien au football. On l'a vu, hein, comment on a perdu voilà, pendant les phases de groupe. Donc, perdre contre Arsenal, je pense que ça va jouer à rien, honnêtement. Mais en tout cas, on va faire que de progresser. Nos joueurs s'adaptent vite. On voit Kvara, ça fait 3 mois qu'il est là. On dirait qu'il est là depuis 3 ans. On voit la première année de Doué, la première année de Neves, la première année de Pacho. Normalement, il y a une période d'adaptation. Donc là, je suis en train de me dire, qu'est-ce que ça va être dans un an? Qu'est-ce que ça va être dans 2 ans? Encore une fois, si on garde le même projet.
En fait,
si
vous, vous projetez, vous, au Paris Saint-Germain.
Des supporters.
On verra l'année prochaine, dans 2 ans,
dans
3 ans.
Dans 10, 20 ans, si on peut la gagner.
Heureusement que les joueurs, que le coach et que l'environnement sont pas dans votre état d'esprit. Bah, eux, ils ont envie de la gagner. Ils le disent à personne, mais croyez-moi, ils savent qu'ils sont capables de la gagner, la Ligue des Champions cette année. Bon, heureusement.
Ça, ils sont capables, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'ils sont capables.
En fait, vous êtes à l'opposé de tout sportif de haut niveau, en fait.
Non, nous, on est dans la bienveillance, c'est la protection.
Oui, mais oui, bravo. Saint-Germain, ça fait longtemps qu'ils
construisent.
Ouais, mais ils construisent, ils ont fait un peu n'importe quoi dans la construction à une époque.
Ouais,
ils ont voulu faire des tours avant de faire les fondations.
Je suis pas toujours
là,
ils ont repris
le truc dans le bon sens. Ils ont refait des fondations. Ils ont mis un entraîneur.
Le gratte-ciel, ils le finissent quand alors?
Ah ben, dans 20 ans.
En fait, tu prends Luis Enrique pour un maçon, toi, Marc.
Mais je le prends Luis Enrique pour un maçon et un constructeur.
Merci beaucoup, en tout cas, Arthur, d'être passé. Merci. Tu as bien fait de venir.
Et Hansi Flick, déjà, c'est depuis quand?
Hansi Flick,
c'est la bienveillance de Christophe Cessieux ce matin. Hein. Mais tu regarderas en détail, Christophe, l'effectif du Barça comparé à celui du PSG, les moyennes d'âge sur.
Mais là, Arthur, c'est pareil pour RMC, on construit avec lui.
L'année dernière, vous n'avez pas battu Arthur. Barça?
Comment?
Qu'est-ce qui s'est passé entre le Barça et le PSG?
Oui, mais il y a eu des faits de jeu, et je pense qu'entre temps, l'effectif du Barça a progressé.
Pas celui du PSG.
Ah si, mais je pense que l'effectif du Barça est toujours aussi dangereux. On ne vous réconciliera pas.
Non, je crois pas, là.
Merci, en tout cas, Arthur, d'être passé. passé. Et dans un instant, on continue nos débats dans les grandes gueules du sport. On va parler d'Arthur Fils, battu par Carlos Alcaraz en quart de finale de Monte Carlo au terme d'un grand combat. Bah, là aussi, on va parler de patience. Est-ce que vous retenez les regrets ou l'espoir après cette rencontre face à Alcaraz? On retrouvera Eric Salio en direct de Monte Carlo. C'est dans un instant sur RMC. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Il est 11h30, vous écoutez les grandes gueules du sport jusqu'à midi avant les paris RMC. Aujourd'hui, ce matin, Christophe Cessieux, Marc Madiot, Denis Charvet et Pascal Duprat. Et si vous nous suivez depuis ce matin, vous l'avez remarqué, ils sont en pleine forme. La moyenne d'âge est élevée. Mais en revanche, l'énergie, elle est là. Hein.
Ouais, bravo, ouais, Pascal, bravo, Pascal est là. Pascal, on peut pas dire qu'il soit méforme.
Merci, voilà. Les enfants. Merci. Je suis là, présent.
Avec mon... En revanche, Denis, on sent quand même que tu as joué au rugby et que.
Ouais, avec mon soutien défectible, Christophe.
Toi, par contre, heureusement qu'on te file des cachets. Tu as le pâté qui a touché la boîte. Heureusement qu'à 11h, on te file des cachets, évidemment.
Ouais, ouais, bah oui, ça requin.
Avec les auditeurs de sache.
Pas de dopage dans les GG.
Jamais. C'est pas de dopage, là.
Moi, c'est Marc qui me file des cachets.
Quand Marc est là, fais attention. Mais alors, c'est juste de l'homéopathie. Dans 15 minutes.
C'est Guy Marc qui l'a filé avant.
Mettez ma cachette.
Du monoxyde de carbone, non?
Oui.
Bon, les amis, on va passer à un autre débat. Parce que vous l'avez sans doute vu hier, vous avez suivi ça. Arthur Fils qui n'est pas passé loin de l'exploit face à Alcaraz. C'était hier, en direct, sur RMC.
45, donc balle de match, 5-3-45. Carlos Alcaraz au service, donc côté droit. Première balle, elle est dedans, milieu de carré. Retour très profond d'Arthur Fils. Allez, va y aller, là, il y va. Ça ne suffit pas, ça revient encore. Allez, revers d'Arthur Fils dans le filet. C'est fini. C'est fini. Victoire de Carlos Alcaraz. Il est dégoûté, Arthur Fils, parce que il sent qu'il est passé tout près d'une victoire majeure. Mais Carlos Alcaraz, donc, s'impose 4-6, 7-5, 6-3, 2h23 à la pendule. Mais ce qui est important, c'est qu'il l'a regardé les yeux dans les yeux et à 6 semaines de Roland. C'est pour ça.
Eric Salio.
Eric, il est lié
tout de suite. Salut, Eric.
Bonjour. Eric, il est licencié au PSG, Eric.
Ouais, ouais. Il a fait des temps.
Moi aussi, j'ai le petit cachet avant les
yeux. Comme si Alcaraz avait peur de son fils, tu sais, le mec qui.
Juste avant d'écouter Eric Salio, quand même, messieurs, j'avais cette question après ce combat. Vous l'avez entendu. Il a fait trembler l'une des stars du circuit. Est-ce que vous retenez après ce match les regrets ou l'espoir pour Arthur Fils? Regrets ou espoir, Christophe Cessieux?
J'ai envie de retenir les espoirs.
Pascal Duprat.
Les regrets, mais ça n'occulte pas les espoirs.
Marc Madiot.
Les regrets.
Les espoirs.
Denis Charvet.
Les espoirs.
Ah.
PSG. La team du PSG.
Et justement, on accueille Eric Salio.
Tu me fatigues. Voilà.
Eric, qu'est-ce qu'il retenait justement, lui, Arthur Fils, après cette défaite rageante?
Allez, bonsoir, bonjour, pardon. Alors, il faut savoir qu'après une défaite,
quand la nuit, c'est la nuit à Monte Carlo. Mais là, il sort du Jimmy, il sort du Jimmy.
Laissez-moi dérouler mon papier, merci. Il faut savoir qu'après une défaite, Arthur Fils n'est jamais très causant. En conférence de presse écrite, il s'est longtemps contenté de réponses courtes avant d'exploser à sa manière.
Oh là, je suis comme un fou, ça m'énerve. C'est dur de perdre des matchs comme ça, c'est agaçant. Surtout quand on a des occasions, encore tu perds 6-2, 6-2, c'est énervant, mais tu te dis que t'es pas au niveau et qu'il faut retourner bosser. Là, je suis au niveau, mais ça passe pas parce que je perds la concentration à des moments où faut pas la perdre. Quoi. Je rentre pas sur le court pour faire de la figuration. J'ai eu tellement d'occasions de me passer devant, j'ai pas réussi à le faire. Ça a tourné dans son sens aujourd'hui et c'est pour ça que c'est un très très grand champion. C'est que la plupart de ces matchs-là, ça tourne pour lui. C'est une défaite qui fait mal et c'est tout.
Plus tard, devant les micros des radios, il a admis qu'il était tombé sur un gars plus expérimenté, mais il est convaincu que son heure va venir.
C'est un immense champion, c'est pour ça, je l'ai dit avant, ce type de match, ça tombe beaucoup en sa faveur parce qu'il sait exactement comment les jouer, surtout jouer les points importants. Moi, il manque un peu quelques matchs à ce niveau-là, mais ça va finir par venir.
Lundi à l'ATP, il sera 14e mondial, ça grimpe régulièrement. Il n'y a plus aucun point à défendre lors du prochain mois. Il se positionne pour Roland-Garros où il bénéficiera d'une belle protection lors du tirage au sort.
Alors Eric, tu restes avec nous justement. Tu vas être l'arbitre de ce débat. Regret ou espoir, qu'est-ce que vous retenez? On a bien entendu Arthur Fils qui avait donc des regrets après cette défaite face à Alcaraz. Toi, Christophe, tu retiens les espoirs alors?
Oui, bah oui, ça me fait penser au début de l'ère Galtier avec le rugby français, le 15 de France. Il y avait, vous vous en souvenez peut-être, ces défaites encourageantes parce qu'on sentait que cette équipe, ce collectif était en train d'avancer vers quelque chose de grand. Et effectivement, les défaites encourageantes se sont transformées en victoires enthousiasmantes.
Un mot
et
que certains n'aiment pas, défaites encourageantes.
Je sais, sens. Mais pour moi, la défaite d'Arthur hier, elle fait partie de ces défaites encourageantes. Parce que le mec a 20 ans, il découvre les plus grands. C'est la première fois qu'il affrontait Alcaraz. Alors tu me diras, Alcaraz n'a qu'un an de plus que lui. Mais il a déjà 4 grands chelems, je crois, dans les pattes. Donc il a beaucoup plus d'expérience. Et je pense que ce genre de défaite, eh bien, les coachs et lui doivent s'en nourrir pour justement arriver la prochaine fois à ne pas perdre la concentration dans les moments clés, dans ces points que les plus grands champions gagnent, ce qui fait la différence entre les champions et les super champions. Et Alcaraz est un super champion. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment garder ça et à l'esprit. Et puis je peux vous dire que hier et ça fait très longtemps que j'avais pas vu ça dans la rédaction d'RMC, toute la rédac était devant le match de tennis d'Arthur Fils. Ouais. Et ça, je ne l'ai pas connu, je ne l'ai pas vu depuis des années. Depuis des années, les tennismen français arrivaient, oui, on en rigolait, c'est-à-dire, ouais, oh, il est sympa, mais ils vont perdre, machin. Là, tout le monde était super attentif, super concentré, et je pense que ce mec-là est en train de créer quelque chose, parce que cette hargne, cette ambition qu'il affirme, je me rappelle de ses premières déclarations, il y a 2-3 ans, où il disait, je veux être numéro 1 mondial. Tout le monde rigolait, oui, c'est ça, mon petit bonhomme. Mmh. Aujourd'hui, quand il parle comme ça, eh ben, on dit, bah, why
pour
not?
Pour être numéro mondial, faut passer par des victoires contre Alcaraz. Hein,
bien sûr, mais il a 20 ans. Il a 20 ans. 20 ans, c'est la première fois qu'il affrontait Alcaraz. Et je suis persuadé qu'il peut le battre très prochainement et pourquoi pas Roland Garros.
C'est pour ça que nous sommes en droit d'avoir des regrets. Et d'ailleurs, son interview d'après-match le démontre. Lui-même a des regrets parce qu'il se rend compte, si vous avez suivi le match, qu'à 5-5 dans le deuxième set, tu m'arrêtes si je me trompe Eric, il a eu des possibilités et que malheureusement, bah, il a pêché, il le dit lui-même, par concentration. Donc ça n'empêche pas les espoirs qu'on a pour que tout le monde fonde pour ce joueur, puisqu'il est déjà 14e à l'ATP. Mais cela dit, on peut quand même nourrir des regrets après un match qui a semblé tourner en sa faveur à un moment donné et que malheureusement il a perdu.
Et ça aurait pu être un match peut-être fondateur, Eric, dans cette logique-là, s'il l'avait emporté.
Évidemment. Non, mais Pascal a raison, le jeu clé c'est 5 partout, 0-40, et surtout Alcaraz se retrouve en panne de première balle. Donc il joue 3 points sur les deuxièmes balles, l'Espagnol. À ce niveau-là, tu dois l'enfoncer, l'Espagnol.
Bon, en fait, je suis le seul qui a regardé le match, je pense.
Oui, j'ai regardé. Et en fait, il a avoué qu'il n'était pas assez rentré dedans à 0-40. Donc, il a fait un aveu de faiblesse quand même. Il a avoué. C'est un aveu de faiblesse. Donc, il apprend. C'est le manque d'expérience.
C'est pas un aveu de faiblesse, c'est un constat.
Je trouve que Alcaraz
a été très bon sur la troisième balle de break, puisque moi, je m'en souviens, l'échange est violent, et à un moment, il casse le rythme. Il casse le rythme, et il tend un piège à Arthur.
Mais justement,
il tombe dans le piège.
Et c'est l'expérience.
En forçant sa frappe.
C'est la grandeur d'Alcaraz. Mais... Si tu veux, c'est pour se mettre au niveau d'Alcaraz, il va falloir qu'il apprenne, justement, ses temps faibles, ses temps forts.
Exactement.
Et donc, il en est pas là. C'est pour ça que moi, je dis qu'il y a que de l'espoir. Voilà, il perd contre un grand joueur, un très grand joueur de terre battue. Mais... Donc, je veux dire, il est pas loin, mais il
aurait pu peut-être accélérer son développement.
Oui, en gagnant hier, il aurait acquis de l'expérience également.
Oui, mais pour accélérer, mais ce serait
dans une situation délicate par rapport à Roland Garros.
Oui, en plus.
Moi, je trouve que la défaite d'hier est intéressante parce qu'elle lui ouvre des perspectives de développement et d'espoir. Et il reste dans une phase d'ascension.
L'outsider aussi.
Il se met dans une peau d'outsider. Quand on est français, qu'on joue à Roland-Garros, imaginez, il gagne hier.
Ouais.
Oui, on aurait
il
dit.
Il aurait joué David Fokina, 42e joueur mondial. Directement, pas été bien.
Nous, on aurait fait une question. Est-ce que ce serait un échec de ne pas remporter Roland Garros dans les grands matchs du sport? Évidemment. Tu nous connais.
Il va pouvoir cultiver son désir de revanche et se façonner pour être opérationnel à Roland Garros. Donc, moi, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle et beaucoup d'espoir.
D'accord. La défaite encourageante.
Je te suis bien. Il ne faut pas s'y gagner Madrid ou Rome. C'est un peu.
Moi, Marc,
oui. Franchement, je te reconnais pas en tant que manager. T'es en train de me dire que la défaite encourageante, t'es en train de me préparer l'avenir, comme si on avait le temps en sport professionnel.
Mais il y en a d'autres très jeunes qui sont très performants.
Qu'est-ce que ça aurait changé?
On vient de loin. Le tennis revient de très loin en France. Le tennis revient de très loin. On a eu des années plus que difficiles. Donc,
qu'est-ce que vous buvez sur le plateau?
Nous enflammons pas.
Et du même Akabi, est-ce que Grégoire, qui est un coureur de chez toi, qui a à peu près le même âge que Arthur Fils, peut avoir un même destin? Est-ce que là aussi, tu patientes et tu te dis
un des premiers trucs qu'on doit apprendre dans ces métiers, c'est la patience.
Mais oui, c'est d'apprendre
la patience.
Je sais bien, mais au bout d'un moment, on parlait du PSG.
Mais à un moment donné, ce qui fait la différence, c'est quand tu saisis les opportunités.
Ah ben, on est bien d'accord.
Un grand jour ne sera pas à travers les mailles du filet. S'il doit y arriver, il va y arriver. Et c'est pour ça que je rejoins Marc sur le niveau de la patience. Attendons, laissons-le s'aguerrir, laissons-lui un peu d'expérience. Et puis,
plus vous vieillissez, plus vous êtes patient, vous.
Comme le dit Eric, il a quand même regardé Alcaraz dans les yeux.
Attention, au fond des yeux. Mais justement, Eric, qu'est-ce qu'on peut attendre de lui sur Roland Garros? Parce que Marc le disait, on va quand même l'attendre malgré tout.
Oui.
Même s'il a perdu contre Alcaraz, il sera le Français le plus attendu. Eric, on est bien d'accord. Et qu'est-ce qu'on peut espérer de lui?
Écoutez, il faudra guetter avec beaucoup d'attention le tirage au sort, parce que grâce à son classement qui est élevé, il va éviter les cas d'or avant les quarts. Mais il peut très bien se retrouver dans la section de tableau d'Alcaraz ou de Sinner. En revanche, s'il est dans la section de tableau de Zverev, là, je lui prédis un destin très intéressant. Là, il pourra rêver peut-être du dernier carré. Ah. Donc, le tirage au sort, évidemment, sera crucial, comme d'habitude. Mm-hmm.
Il a le dernier carré.
Il va être combien, là, tu disais, Eric?
Il est 14. Mais il va encore grader des places, c'est mathématique, puisqu'il a zéro point à défendre.
Ah, oui.
Tous les mecs qui sont devant lui, ils ont des points à défendre. Donc je pense qu'il peut être 10, pourquoi pas à Roland.
Il va faire Rome, Madrid, tous ces...
C'est Barcelone la semaine prochaine, Madrid et Rome, comme tout le monde.
D'accord.
Okay. Lionel... Il a zéro point à défendre, donc ça va grimper, c'est mathématique, c'est naturel.
Lionel est avec nous au 32-16 pour arbitrer ce débat autour d'Arthur Fils. Salut Lionel.
Messieurs, bonjour.
Comment ça va?
Ça va bien. Déjà, avant de me faire avancer entre tout, je voudrais faire un petit coup, puisqu'on parle de tennis. Je suis dans un complexe de sport de tennis et je voudrais passer mes présidents, Marc et Rémi, et tous les profs. Voilà, c'est déplacé.
Maintenant,
je suis totalement d'accord avec Marc. Parce que vous ne pouvez pas comparer les sports quand vous lui dites oui, et si ton joueur. Regardez, une finale de Ligue des Champions. Si vous la perdez sur des détails, peut-être plus jamais vous y allez. La Ligue des Champions au tennis, il y en a 4 par an. Un Roland-Garros, lui, en fait, le tennis, il est basique. Il faut arriver à se mettre au niveau tennistique, mais surtout mental des meilleurs. Et là, Fils, il les a côtoyés. Il a gagné un ATP 500 en finale contre Zverev en Allemagne. Là, tout le monde est déçu qu'il ne batte pas le meilleur joueur du moment, puisque Sinner n'est pas là, dans un énorme tournoi où il est archi-favori. Et je rejoins totalement ce qu'on disait. S'il avait tapé Alcaraz, ben moi, je vous le signe, il perd en finale, lamentablement, peut-être, parce que l'émotion a été trop forte. Et il aurait une énorme pression pour Roland Garros. Donc, c'est dommage qu'il n'ait pas gagné. Mais, je pense que pour son évolution, cette défaite, elle va beaucoup plus l'apporter qu'une victoire. Surtout maintenant. En finale, je ne dis pas en demi-finale, il aurait tout donné. Et peut-être qu'en finale, il serait fait cueillir par un Mosetti qui l'aurait bricolé. On aurait dit, oh là là, quelle déception. Alors que là, il a tout ce qu'il faut. C'est quand même un gars... On est en train de parler de lui pour gagner le meilleur joueur du tennis actuel. Est-ce qu'il gagnera un jour un grand chelem? Le gars, il n'a pas passé un tour à Roland-Garros. Donc, laissez-le arriver en quart, en huitième. Et là, ce sera pas le même Arthur Fils qui perd contre l'Italien comme l'année dernière, alors qu'il est sa bête noire. Moi, je vous dis, si jamais il le rencontre en quart, il va lui mettre une branlée. Donc, moi, je suis très, très, très optimiste. De la même manière que je pense qu'on n'est pas prêt de voir un vainqueur de grand chelem français. Maintenant, on enlève Sinner et Alcaraz d'un grand chelem. Dites-moi qui doit craindre. Franchement, Eric, qui peut, contre qui va sur le terrain en disant putain,
c'est quoi, comme quand t'enlevais Federer et Nadal, bon,
si
tout
le monde a la bonne partie du tableau, c'est, il peut très bien faire un carré, bien sûr, un dernier carré, c'est
d'accord.
Évident.
Donc, t'es en train de nous dire, Eric, il est juste en dessous d'Alcaraz et Sinner, quoi, sur un tournoi comme Roland-Garros.
Il a le coup droit le plus rapide du circuit. Il a un jeu de jambes, t'as vu, sur ses cuisseaux. Ouais. Physiquement, c'est un athlète extraordinaire. Et mentalement, voilà, il est très ambitieux, comme l'a dit Christophe. Et c'est rare en France. Moi, j'ai rarement vu un mec détruit autant après une défaite hier en conf de presse. Pourtant j'en ai vu des mecs passer en conf. Là il était
oui,
dégoûté.
Ça, c'est plutôt bon signe.
Les mecs qui ont perdu, t'en as vu passer, c'est sûr.
Merci en tout cas Eric d'être passé. Merci beaucoup. Et bah, on va suivre évidemment les demi-finales de Monte Carlo. David voilà.
Bonne nuit.
Là, je retourne sur les cours. Là, je suis bien placé pour le tournoi des journalistes. Là, je vais peut-être vous ramener le couple. Je pense que je vais être en demi facile.
Il est chaud.
Ça je sais pas.
Ah, tu sais pas, quand on ne connaît pas encore.
Il y a des étrangers, il faut les maîtriser. Il y a un Allemand, il y a des Serbes, tout. Non, c'est dangereux.
Si tu perds, c'est pas grave, Eric. Tu apprendras.
Oui, mais moi, mon âge,
pas la raquette que celle d'Arthur hier. La raquette, elle a morflé quand même.
Merci beaucoup, Eric. Et bon match, donc tu nous tiendras au courant. T'es obligé.
Vamos.
Il dit Mamos, je suis sur le coup, Eric, n'importe quoi. Merci beaucoup, Lionel, d'être passé dans les grandes gueules du sport. Et dans un instant, les GG continuent avec le fameux débat caché. Vous restez avec nous. On en parle dans un instant sur RMC avec vous. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Il est 11h48, de retour dans les grandes gueules du sport. Dernière ligne droite, vous pouvez retrouver le podcast dès maintenant. Et je peux vous dire que Pascal Duprat, Marc Madiot, Christophe Cessieux, Denis Charvet sont vraiment en forme depuis 9h ce matin.
Malgré leur âge.
Grandes gueules du sport. Oui, on va pas insister sur votre âge. Vous êtes encore jeune pour nous, vous inquiétez pas.
Surtout moi, mais, plus jeune.
Mais moi, moi, j'aime bien être avec vous parce que je me sens,
mais tu te sens
complètement frais là.
Comme j'y sais. Enfin, on l'a tellement fatigué qu'il est obligé de partir en vacances tous les 15 jours.
Oui, c'est ça. Mais qu'il continue, j'y sais. Si nous
j'ai joué au golf comme un vieux.
Allez, tout de suite, c'est l'heure du débat caché. C'est parti.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Je suis sûr que vous êtes dans le noir complet, là, le noir total.
Ah ouais, tu nous as même pas demandé ce qu'on
voulait. Rien demandé.
J'ai aucune idée.
Ouais, je suis sûr que vous avez aucune idée, vous allez être surpris. Les GG ne savent rien, mais vous allez devoir débattre. Le guet-apens du jour, c'est ça.
On a choisi de travailler comme ça. C'est même un bouclier pour moi. Pour l'épisode de Paris Saint-Germain, elle a été touchée personnellement, elle a attaqué personnellement. C'est pas l'agent qui a été attaqué, c'est la femme, c'est la mère. Mais pour le reste, on a toujours travaillé de cette manière et ça se passe très bien comme ça, ça s'est toujours très bien passé. Elle m'a toujours protégé.
Vous l'avez reconnu, Adrien Rabiot, hier en conférence de presse avec l'Olympique de Marseille. Il est revenu sur les attaques subies par sa maman lors du match face au PSG. Et il en a profité aussi pour rappeler l'importance de sa mère dans sa carrière. D'où cette question, les GG. Parents ultra présents, nocifs ou positifs? Je ne sais pas si vous êtes des parents ultra présents, vous d'ailleurs. Marc Madiot.
Nocif.
Denis Charvet.
Je n'ai pas envie de répondre à ça, mais malheureusement, nocif. Oui.
Ah, oui. Pascal Duprat.
Ça dépend des cas. Dans ce cas-là, positif, pour ce qui est de Rabiot.
Christophe Cessieux.
La plupart du temps, nocif. Mais il y a aussi des exceptions, comme le disait Pascal.
Vous n'êtes pas des parents hélicoptères, vous savez.
Non.
Les parents hélicoptères, c'est ceux qui veulent tout contrôler là, dans la vie de leurs enfants.
Pour voir moi, j'essaie de contrôler leur nombre d'heures devant les écrans.
Ouais.
J'ai du mal.
Ouais.
Donc j'ai qu'une pale dans l'hélicoptère en fait.
C'est un hélicoptère bancaire. Okay, très bien. Pascal, toi, tu dis quand même que c'est positif pour Adrien Rabiot dans ce cas
déjà
précis.
Oui, déjà ce qu'il dit de sa maman, je trouve ça admirable. En lisant son article, j'ai trouvé, on va dire la plaidoirie, parce que c'était le cas de Rabiot concernant sa maman, vraiment admirable. Et puis dans son cas, oui, parce que même si elle est souvent décriée, parce que elle semble être omniprésente, la parole de son fils, la parole est d'or, parce que lui-même dit que sa mère, c'est son bouclier, que sa mère, elle lui apporte beaucoup et qu'il peut se concentrer uniquement sur le football, tellement il a confiance en sa mère pour ce qui est des négociations de contrat, par exemple. Donc, dans ce cas précis, même si elle a été souvent controversée, je trouve que la maman d'Adrien Rabiot, eh bien, elle est bénéfique absolument bénéfique dans la conduite de la carrière de son fils.
C'est là où je rejoins Marc, c'est que c'est les propos d'Adrien.
Pascal,
je veux dire. Pascal, pardon, oui, excuse-moi.
C'est la vieillesse.
Le pâté.
Et c'est vrai que s'il s'y retrouve, on peut, c'est vrai que les propos sont magnifiques d'un fils pour sa maman. Donc, s'il s'y retrouve, s'il s'y retrouvait, c'est que tout va bien, qu'en fait.
Non, on a qu'on n'a pas jugé, même pour lui, oui, hein, que
tous les cas sont pas les mêmes. Oui, mais qui peut te dire aujourd'hui
aussi. Alors j'ai écouté hier
chez Jérôme Rotten, j'ai écouté ce qu'il disait. Effectivement, il y avait un vrai débat sur ça. Il disait si avec un agent comme ils ont cité
Mendes, tout ça
ouais. Et tout, s'il avait un amendement, ça aurait été mieux. On n'en sait rien, la vérité.
On sait rien, ça.
Non, mais on n'en sait rien, c'est ça la vérité. Donc je pense que on a, pour certains, je pense que ça va être nocif. Pour Rabiot, mais je rejoins Pascal, je ne suis pas sûr que ça ait été vraiment nocif.
Marc, toi, tu as été quand même assez direct pour dire nocif.
Parce que je pense que le lien familial, c'est une chose, et il est fort et important pour tous, dans toutes nos vies. Mais quand on rentre dans la sphère professionnelle, je pense qu'il y a plus de chances de mieux s'en sortir quand on n'a pas de lien familial avec les gens qui nous représentent, plutôt que d'aller chercher quelqu'un à l'extérieur. Parce que s'il y a mal donne avec l'extérieur, c'est plus facile de réagir et d'interchanger. Quand c'est le lien familial, on est dans une forme de complaisance qui peut être nuisible à l'intérêt du développement.
Ça dépend aussi de la manière dont les parents se comportent. Moi, je voulais prendre l'exemple d'un de tes coureurs, Valentin Madouas. Son papa...
Il n'intervient pas,
mais ils sont quand même... Ils sont quand même présents.
On peut avoir un lien familial très fort, mais il joue pas comme son agent. Un conseil ou une analyse. Moi, j'avais mon père qui me jugeait, qui me notait. Il me disait toujours, tu as le droit d'être battu, mais t'as pas le droit d'être mauvais. Et quand j'étais jeune, à 16-17 ans, que j'ai commencé à courir et que l'hiver, j'avais envie de sortir un petit peu avec la mobylette pour aller au bal du quartier, il m'empêchait pas d'y aller.
C'était une recommandation quand même.
Il me disait une chose très simple. On fera les comptes au mois de mars.
Bonjour la pression.
Non mais ça voilà, c'est tout. Si j'avais envie d'y aller, j'y allais de toute façon.
Donc ça t'a aidé quand même.
Mais bien sûr que ça m'a aidé. Il restait à sa place. Il m'a jamais dit il faut plus signer dans telle équipe et tu t'es fait arnaquer ou t'as pas signé assez cher ou t'aurais dû faire ci ou t'aurais dû faire ça. Le seul moment où il intervenait, c'est quand j'allais à l'entraînement. Si j'étais une journée sans rouler, il disait rien. Si j'étais deux jours sans rouler, il me disait t'as un problème. Et si j'étais trois jours sans rouler, ce qui n'arrivait jamais. C'est ton métier. Lui, il allait traire ses vaches tous les matins et tous les soirs. Donc, si au bout de deux jours, tu commences à te reposer, ça va pas. Il savait tirer la sonnette d'alarme, ça s'arrêtait là.
Il fallait respecter les règles, en fait.
Voilà.
Mais ça
s'arrêtait là.
Mais dans le cas de Rabiot, juste pour finir, c'est vrai que sa maman est souvent intervenue sur le plan sportif. C'était ça qui était un peu dérangeant. Puis, souvenez-vous, en équipe de France, elle faisait des remarques en disant, Adrien, il peut pas jouer en 6, il peut jouer.
Oui,
Il y a quand même très. Il y a eu quand même cette déviance.
Comme un agent.
Parce qu'elle est pire qu'un agent.
Mais c'était de manière répétée.
Je pense qu'être agent et parent, c'est compliqué.
Oui, je pense que c'est très compliqué. Mais
ça n'empêche pas que la famille puisse donner des...
Après, quand tu vois là, on parlait du côté positif, mais regardez un peu ce qui s'est passé dans beaucoup de cas de joueurs ou de joueuses de tennis.
Le
père de Mary Pierce et compagnie. Après, il y a eu le père Williams qui lui a quand même protégé.
Dans la natation,
il y a des exemples et des contre-exemples partout. Donc, c'est très difficile d'avoir un avis et un seul avis.
Mais vous en êtes bien sorti quand même pour ce débat caché.
Non, mais je pense que ça nécessiterait un vrai gros débat, ça.
Tout à fait.
Plus que 3 minutes, quoi. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, chef.
Oui, ouais.
J'ai l'impression d'avoir mon papa, justement. Là, il m'a tapé sur les doigts. C'est papa Christophe Cessieux. Merci, papa.
Appelle-moi grand-papa, s'il te plaît.
Oui, merci, grand-papa. Pardon, c'est vrai. Merci à tous, en tout cas. Vous avez été parfaits.
Merci, François.
À bientôt.
Merci, Pascal.
Le 20 avril.
Mais oui, on lui souhaitera à l'antenne, évidemment.
Je ne serai pas là.
Il ne sera pas là, c'est vrai. Monsieur part en vacances. Il ne veut pas être là.
Merci, Denis.
Allez, pas directement.
On se retrouve demain. demain pour Paris-Roubaix, en direct de Roubaix, on l'a dit, on suivra ça avec toi, bien sûr, avec Jérôme Coppel, avec Maria Azé, avec toute l'équipe d'RMC. Merci Marc, et bonne course. Hein.
Merci.
Hein, on compte sur toi pour faire gagner les Français. Hein.